Amen.
Amen, amen.
Ihr mögt euch
vous pouvez
sitzen.
Vous asseoir.
Heute sind eine ganze
aujourd'hui, il y a tout un nombre de prières et de requêtes et aussi de mouchoirs qui ont été apportés devant pour essuyer la sueur. C'était comme ça avec Paul. C'était des mouchoirs qui ensuite ont été imposés aux malades. Et le Seigneur a vu la foi de ceux qui l'ont fait. Il faut que cela soit fait dans la foi, car seulement ce qui est fait dans la foi pourra être béni de Dieu. Nous l'avons entendu d'Abraham. Il croyait Dieu. Et tous nous savons qu'il avait 75 ans quand le Seigneur, pour la première fois, lui avait parlé. Et il avait 99 ans alors que le Seigneur lui avait donné la promesse pour Isaac. Et lui disait, après un an, dans la même époque, je reviendrai. Et ta femme aura le fils. Abraham riait et croyait. Il s'est réjoui, il a fait les deux. Il riait et il croyait et il disait, moi, un vieil homme, mais on peut, en croyant, se réjouir. Quand on croit, on n'a pas besoin de faire un visage comme souvent je l'ai, hein? Un visage triste. Non, celui qui vraiment peut croire a reçu un don de Dieu, un cadeau de Dieu, et il peut se réjouir. Et nous avons ici une annonce que plusieurs veulent se laisser baptiser. Cela peut aussi, après cette réunion, avoir lieu. Et particulièrement, nos amis en Afrique ont appelé. Et le meilleur témoignage vint du Burkina Faso, du frère pareil qui, là-bas, avait préparé les réunions et avait reçu donc la nouvelle triste que nous ne pouvions pas venir et que le vol était annulé. Et justement, ensuite, ils ont vu la main du Seigneur conduire les choses de manière différente et que nous avons pu, malgré tout, faire un escale là-bas, arriver là-bas par un escale qui n'était pas prévu. Il a appelé ce matin, il a entendu la réunion hier. Il a entendu ce qui a été dit. Et les gens pleurent de joie et louent le Seigneur. Et le Seigneur bénit et avec son peuple de manière visible. Et nous en sommes très reconnaissants. Ensuite, il y avait eu tout un nombre d'appels comme jamais auparavant. Partout, beaucoup ont entendu la réunion de hier. Et cette fois-ci même, ils ont dit, la ligne directe était unique, était vraiment bien. On pouvait exactement bien entendre et suivre et voir. Ensuite, l'appel d'Abidjan, un appel de Kinshasa, un appel de la Porte Élisabeth, et ensuite de Népal, de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde, du Chili, de Cuba, une nouvelle vraiment merveilleuse. Ils ont tous bien suivi et entendu et ont tous bien compris. Nous remercions aussi nos bien-aimés frères qui traduisent. Que Dieu le Seigneur bénisse dans chaque langue. Et encore une fois, de la Roumanie, encore une fois, de Djamena, de notre frère Samuel, et comme déjà dit, des appels téléphoniques. je peux pas, que je ne me suis pas remarqué, que je ne me suis pas noté tous, mais Dieu est fidèle. Et le dernier message atteint les extrémités de la terre. Que vous pouviez tous le comprendre ou pas, ou bien vous l'avez déjà compris, mais la responsabilité qui nous a été transmise de faire retentir le dernier appel dans le monde entier et de donner justement dans ce dernier laps de temps de l'histoire du salut, le dernier appel doit retentir comme une trompette, comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, que si la trompette fait retentir un son qui n'est pas clair, qui pourra se revêtir pour la bataille, pour la guerre. Mais la trompette de Dieu, la trompette de Dieu doit avoir un son clair. Et doit, ce son doit être transmis à tous pour que tous ceux qui sont de Dieu et qui ont reçu la grâce auprès de Dieu puissent accepter, recevoir la parole et à ce moment où ils la reçoivent, au moment où ils croient la parole qu'ils ont reçue, ils la reçoivent alors révélée. Nous avons souvent dit dans le monde entier, c'est seulement au moment où le Seigneur, de manière personnelle, peut parler avec nous, comme autrefois avec Abraham. Ce n'était pas par un médiateur, par quelqu'un, mais c'était une visite directe. C'était une parole adressée directement à Abraham de la part du Seigneur lui-même. Donc, celui qui a déjà seulement entendu Paul, mais n'a pas entendu le Seigneur lui-même par Paul, il n'a pas encore compris de quoi il s'agit. Et dans notre temps, c'est aussi la même chose. Celui qui parle seulement d'un prophète, ou bien qui parle des prophètes, ou bien peut-être encore même exprime et dit que le prophète a dit ceci et a dit cela. Cela ne suffit pas. Nous devons revenir à la parole et nous devons avoir le contact, trouver le contact avec Dieu. Comme souvent nous l'avons dit, un homme de Dieu, il faut que cela réussisse à un homme de Dieu par la prédication de lier le peuple de Dieu avec Dieu, qu'il ne soit pas en contact avec un homme, mais avec Dieu. En ce qui concerne le message que frère Branham avait à apporter, mandaté par Dieu, c'est ainsi que nous croyons de tout notre cœur, et particulièrement moi, qui a eu cette occasion unique de voir et d'entendre ce que Dieu, dans notre temps, a fait. C'est une différence éloignée du ciel, de la terre. Seulement d'entendre, ou bien même, peut-être même, de dire « il était une fois ». Non, mais qu'on puisse dire comme Pierre, nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons entendu la voix retentir du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Des témoins oculaires, des hommes qui étaient présents, qui ont vu et qui ont entendu. Et ces hommes-là portent une grande responsabilité. Bien sûr, en ce qui concerne la langue anglaise, en ce qui concerne l'anglais et les prédications de frère Branham, qui ont été imprimés. Malheureusement, ici et là, dans l'enseignement, il y a eu des choses qui sont allées de travers. Je vais vous lire seulement la citation de la prédication « L'enlèvement ». Et ici, seulement par les virgules et les points qui ont été mal placés, que ce soit par esprit ou bien sans esprit, que Dieu lui-même puisse juger, même de toutes les manières, le résultat est une catastrophe et un égarement. Ici, frère Branham dit en relation avec 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17. Il dit ici un cri. Et ensuite ici, il faut qu'il y ait un point. Il faut qu'il y ait un point après ce mot.
Die Botschaft wird seinem Kommen
le message, ensuite, le message ira dans le monde avant son retour. Dans le texte anglais, le mot message écrit, ils l'ont fait comme si c'était un seul mot. Ils ont dit que le cri est le message. Ils ont dit le cri est le message. Et cette interprétation, disant que tel est écrit ici, ce signal donné est le message. Ils disent que le signal donné de Thessaloniciens 16 est le message. Mais s'il vous plaît, pas le message ou bien le cri, ou bien le signal donné de 1 Thessaloniciens 4, ce signal donné là est lié au retour du Christ. Et ce signal donné ne durera pas 40 ou bien 60 ans ou bien 50 ans, mais en un clin d'œil, il aura lieu quand le Seigneur descendra. Donc en anglais, le signal donné, après le signal donné, il faut qu'il y ait un point. Et ici, même dans la Bible, il y a un point. Et eux, ils ont mis une virgule et ils ont dit que c'est le message. Et ici, nous savons que dans le contexte de 1 Thessaloniciens 4, il s'agit du retour du Christ. Et nous savons exactement ce que Frère Branham a dit. Un signal donné. Et cela se réfère à ce qui suit dans 1 Thessaloniciens 4, pas au message, mais à ce qui suit ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car nous savons que le message, pendant des années et des années, est apporté dans le monde entier. Mais le Seigneur n'est pas en train, pendant toutes ces années-là, de descendre doucement, comme un processus. Non, le trône de la grâce est encore trône de la grâce, et le temps de la grâce est encore temps de la grâce. Donc, nous apportons le dernier message, et nous lui donnons à ce dernier message la place qui lui est due, c'est-à-dire qu'il doit être apporté dans le monde entier, et tous ceux qui maintenant prêtent l'oreille au dernier appel, et ainsi ont la possibilité de prendre les décisions pour le Seigneur, le fassent. J'ai encore écrit en allemand en bas, un signal donné. Et Frère Branham dit ici, c'est le message d'abord qui retentit, la parole qui est apportée pour appeler l'épouse à sortir. Et moi j'ai écrit en allemand ici en bas, un appel. Faisant mention au message, ça c'est Matthieu 25. C'est ainsi que par ce message, nous avons été ramenés à la parole du commencement. Mais toute cette doctrine et ces enseignements sur les sept tonnerres et sur tout cela, nous n'avons rien à faire avec cela. Ici, il faut, et disons les choses de cet endroit, il faut que la parole du Seigneur, de manière pure et sainte, sans compromis et falsification, soit apportée et que le monde entier puisse l'entendre. Ça, ce ne sont pas nos mérites. Cela était comme ça déjà dans le plan de Dieu, déjà d'éternité en éternité. Et comme la chorale dans le dernier cantique l'ont chanté concernant l'amour de Dieu, ici, dans Romains 5, nous avons le verset qui directement ici l'exprime. Romains, chapitre 5, au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu déversé par le Saint-Esprit dans le déversement du Saint-Esprit, ou bien alors répandu, il y avait les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit. Mais les dons et les fruits de l'Esprit doivent être dans l'amour divin. Si ces dons de l'Esprit ne sont pas dans l'amour divin, si ces fruits de l'Esprit ne sont pas dans l'amour divin, cela peut arriver. Ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, cela peut arriver que, disons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 13, si cela n'est pas dans l'amour, au verset 1, il dit, quand je parlerai même les langues des hommes et des anges, donc il faut que les dons de l'Esprit soient dans l'amour. Et si je n'avais pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Le verset 8, dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Alors il est dit ici que tout est en partie. Nous remercions Dieu pour les choses qui sont en partie et nous savons que la chose parfaite arrive. Ensuite, ici nous avons le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que nous avons toutes ces trois choses, que nous avons reçu la foi de Dieu, venant de Dieu, comme Abraham l'avait reçu alors qu'il écoutait les promesses dans son époque. Au moment où nous croyons ce que Dieu a promis dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est à ce moment-là que Dieu nous a donné la foi par sa grâce. Car si tous nous avons la foi biblique, disons Amen. Bien sûr, si nous avons cette foi biblique, disons Amen. Parce que les promesses sont dans la Bible. Et nous avons aussi l'espérance. Nous avons l'espérance vivante. L'espérance bénie qui est liée à la foi. Pensons à Hébreux 9, le dernier verset. Le Seigneur, pour la première fois, vint pour ôter le péché de plusieurs et il revient pour la deuxième fois pour nous prendre la gloire auprès de lui. Il revient sans péché. Et si nous considérons tous les autres versets et particulièrement Luc, verset 17 que frère Branham à peu près a souvent utilisé comme la parole aussi du prophète Malachi, que Dieu le Seigneur voulait envoyer un prophète. Mais cette parole doit être bien comprise et elle peut être seulement bien comprise si nous lisons les versets qui sont écrits avant le verset 30 de Luc 17 et aussi les versets qui sont écrits après le verset 30 de Luc 17. Si nous voulons savoir le contexte, nous devons lire ce qui est écrit avant et ce qui est écrit après le verset 30. Lisons et disons-le aussi brièvement et rapidement dans Luc 17. Frère Branham, dans ce contexte, a lu le verset 30, particulièrement et très souvent, en insistant. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En allemand, se révélera. Et Si nous lisons par exemple à partir du verset 24, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, on peut même pas si rapidement voir, et déjà ça brillait. Et ici, tel que c'était du temps de Noé, tel que c'était du temps de Sodome et de Gomorre, alors que Lot sortit de Sodome, cela a eu lieu. Le verset 29. Mais le jour où Lot, verset 29, sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Maintenant, écoutez le verset 30. Pensez au verset 29. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et là, il est même écrit concernant le jour et la nuit, car dans un bout de la terre, il fait jour, dans l'autre bout, il fait nuit au même instant. Donc, en ce jour-là, verset 31, que celui qui sera sur le toit, tous vous connaissez les Saintes Écritures, pensez à Lot, à la femme de Lot, au verset 32. Ensuite, nous venons au verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce n'est pas un processus qui, comme ça, dure des années. C'est laps de temps dans lequel ces années qui passent longtemps, ça c'est le dernier message qui est retenti dans le monde, qui est porté dans le monde entier. Mais le retour du Seigneur, tel qu'il est décrit ici, aura lieu en un clin d'œil, en un instant. Il est même ici dit. Comme l'éclair. Et ainsi, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants en Christ, nous serons transformés. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Toutes ces interprétations différentes qui existent à l'intérieur du message, ça produit un chaos qui n'a jamais existé sur terre auparavant. Et si aujourd'hui, en comparaison avec ce que nous avons ici considéré hier soir, dans la crainte devant le Seigneur, je peux dire que tous sont en train d'édifier leurs propres autels. Tous font ce qu'ils veulent. Ils ne s'entretiennent pas, ils ne consultent pas le Seigneur, mais ils font comme autrefois ce qu'on a fait. Ils se détachent, ils se séparent, ils ne vont plus à Jérusalem, mais ils font leurs propres choses. Quand aujourd'hui, avec grande douleur, je dis, depuis 1979, cela a eu lieu. Cela a commencé. Et si je veux, et je dois, pas je veux, mais si je dois devenir plus clair, il faut qu'on ait reçu de Dieu lui-même un mandat pour prêcher la parole dans le monde entier. Il y en a qui se moquent quand ils entendent de ces choses et qui font ce qu'ils veulent et qui disent, ah, Vous n'avez pas besoin d'aller à Krefeld avant. Pourquoi est-ce que vous voulez aller à Krefeld? Pourquoi? Qu'est-ce? Mais c'est comme partout, il y a des réunions partout. Partout, on peut écouter la parole. Tel que c'était autrefois. Et tous ceux qui se sont détachés de Jérusalem et qui sont allés sur la montagne d'Éphraïm, hein, pour décider pour eux-mêmes. Et si vous lisez exactement, vous voulez lire exactement les choses, ils ont établi des sacrificateurs qui ne venaient pas de la tribu des Lévites. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, frères et sœurs. Et aujourd'hui, vous pouvez aller de ville en ville. Et partout, il est dit, nous croyons le message. Et notre pasteur est ainsi et ainsi. Partout, tout bien ordonné. Sans être en relation avec la parole que Dieu, dans ce temps, a révélée. Ça ne nous sert à rien si aujourd'hui nous savions ce qui s'est passé sur la montagne d'Éphraïm autrefois. Et ça ne nous sert à rien aujourd'hui de savoir ce que frère Branham à haute voix a dit, que ces deux tribus-là ne sont plus représentées dans l'Apocalypse parce qu'ils ont commis de l'idolâtrie, ils ont fait ce qu'ils voulaient et se sont détachés de ce que Dieu avait déterminé dans leur époque. Dieu avait choisi Jérusalem. Dieu avait établi des apôtres et des prophètes. Dieu avait fondé l'église à Jérusalem par l'effusion du Saint-Esprit. Tout avait été ordonné par Dieu. Et nous vivons maintenant dans le temps du rétablissement de toutes choses. L'ordre divin doit être rétabli d'abord dans tous les frères, dans toutes les sœurs et ensuite dans toute l'Église rétablie. Il y a une seule chose que je vais mentionner, la chose la plus triste, l'expérience la plus triste de ma vie. Et hier soir, cela m'a rappelé les années 79. Je m'excuse de ce que parfois encore je regarde en arrière, et cela bien sûr avec beaucoup de douleur. J'ai écouté la prédication Mariage et divorce. Nous avons écouté les deux. Et une fois, j'ai arrêté. Et les paroles ont été prononcées des lèvres. Des paroles qui n'auraient jamais dû être prononcées. Ici, le prophète ne dit pas ce que Paul a dit. Et Paul disait, celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Ces paroles-là n'auraient jamais dû être prononcées. Je n'ai plus revu cette cassette. Et après, tout le reste a suivi. Nous l'avons écouté autrefois, ensemble. Alors que je devais parler de ça hier soir, comme c'était autrefois, qu'un homme de Dieu, mandaté par Dieu, a agi et subitement, quelqu'un lui dit, il y a un ange qui m'est apparu et qui m'a ordonné. Et tout cela était un mensonge. C'était un mensonge. Et toutes ces paroles-là en relation avec frère Branham et Paul, mes oreilles ont dû les entendre de cette femme. Et c'était comme si quelque chose s'était déchiré, c'était comme si la ligne, c'était la limite avait été dépassée. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on ressent. Et je le dis sincèrement, frère Branham a parlé des femmes. Vraiment, il a dit plusieurs choses. Et il y a des frères qui le disent, que ce soit dans tous les deux ou bien tous les troisièmes prédications, que ce soit 200 ou bien 300 fois que frère Branham toujours dans les prédications, et se tourne aux sœurs, et avec beaucoup de sérieux à parler. Mais Paul, est-ce que Paul n'a pas fait la même chose? Est-ce que Paul n'a pas toujours de nouveau parlé des femmes et a exposé ce qui est nécessaire? Et Pierre aussi. Et maintenant une question à vous tous, bien-aimés sœurs en Christ. Une question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris de scandale à ce qui a été enseigné, à ce qui a été dit? Pourquoi vous acceptez ces choses? Parce que vous avez trouvé grâce devant Dieu et vous avez de la bonne manière pris votre place en tant que femme. Ça, c'est la grâce que Dieu vous a accordée, que Dieu nous a accordée. Toutes les sœurs qui sont d'accord avec tout ce qui a été enseigné dans la Bible et aussi par Frère Branham, vous qui êtes d'accord, dites Amen. Ça pourrait être plus fort. Hein? Les frères veulent l'entendre. Hein, c'est bien. Pourquoi est-ce que nous le disons? Le monde entier se met en colère et ils disent, oh, regardez, il s'en prend aux femmes, il en veut aux femmes. Non, et encore une fois, non. On doit écouter tout. On doit l'écouter avec un cœur. Un cœur qui accepte toute la parole. Et c'est ainsi que nous trouverons tous notre place. Personne ne se met en colère. Personne a une résistance. Chacun se soumet. Dieu, Christ, man et femme. 1 Corinthiens, chapitre 11. Et tout ce que Paul a écrit a été répété, seulement répété. Pourquoi ça a été répété? Parce que la fin dans l'Église doit devenir au commencement de l'Église et que tous trouvent leur place et l'acceptent et soient bénis de Dieu. Encore une fois, je voudrais le dire, Dieu le Seigneur, qu'il bénisse toutes mes sœurs de manière particulière, qui ne prennent pas de scandale, ne se heurtent pas à ce qui a été dit, mais qu'ils l'ont accepté de tout leur cœur et qui ont demandé à Dieu de leur faire grâce pour aussi mettre la parole de Dieu en pratique. Ou bien alors les écouter. C'est la même chose avec tous les frères. Car les Saintes Écritures disent, vous frères, aimez vos femmes. Et pas n'importe comment. Tel que Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous voulez le faire, bien-aimés frères? On dit Amen. Amen. Aussi cet amour profond appartient à ça. Et là où ce n'est pas ainsi, alors là, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 15, s'exécute. Si la partie qui n'est pas croyante ne veut pas qu'elle puisse partir dans un tel cas, le croyant n'est pas coupable. Tout, j'ai encore une fois tout, nous a été dit dans la parole de Dieu. Et nous pouvons tous trouver notre place et l'accepter. Nous avons la responsabilité devant Dieu. À la fin du temps de la grâce, d'apporter tout le dessein du salut sans aucune exception pour que tous ceux, aussi tous les ministères, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères, nous pouvons aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le chapitre 14 aussi, nous pourrions lire partout tout ce qui existera, doit exister, doit être manifesté, doit être de nouveau là, présent, dans le rétablissement et la restauration de toutes choses. Et tous ensemble dans la foi, sans faiblir dans la foi, car nous vivons de cette conviction comme Abraham, que Dieu a pris toute la responsabilité. C'est lui qui a donné les promesses et c'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Tite, le chapitre 2, nous avons, à partir du verset 11, l'avertissement, l'exhortation. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On arrive. Elle nous éduque, en allemand. C'est une éducation. Elle nous enseigne. Elle nous éduque. Elle nous discipline à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ensuite, nous venons à cette question. Est-ce que cela est possible? Tel que dans les Saintes Écritures, cela est exprimé. Il est écrit ici, dans le siècle présent, dans ce siècle, dans cette génération pervertie, est-ce qu'il est possible de vivre dans la piété? Il faut que ce soit possible, car Dieu le dit ici. Il nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. C'est lui qui l'a dit et c'est lui aussi qui l'a promis, et il est possible. Au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour... Il faut que nous soyons semblables à des gens qui s'attendent à la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Des gens qui attendent son retour, le retour de notre Seigneur. Et tel que frère Branham, dans cette expérience merveilleuse, pouvait le témoigner que il a vu le troupeau des vainqueurs dans la gloire et il a entendu là-bas les paroles. Seulement l'amour parfait entrera ici. Seulement l'amour parfait entrera ici. L'amour parfait, c'est l'amour de Dieu qui sur la croix à Golgotha a été manifesté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et aussi la parole que nous avons lue de Romains, l'épître de Romains, l'amour de Dieu, dans Romains 5, verset 5, est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, à Dieu, l'amour pour les uns les autres, l'amour de Dieu se propage, elle arrive partout, elle est acceptée de tous. L'amour de Dieu, le vrai amour, est accepté de tous, va partout, et c'est Dieu qui prend soin de ça. Et même la prédication de la vérité, nous ne l'apportons pas comme ça en critiquant ou bien alors en tirant une comparaison avec ce qui n'est pas en accord avec Dieu. Nous avons hier dit qu'il y a des gens qui ont fait leur propre Dieu, leurs propres images taillées, etc. Et imaginez-vous un peu que aussi... Et imaginez-vous ce qui a été dit à Aaron, n'est-ce pas? Ou bien ce que Aaron a dit, voici le Dieu, voici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Un Dieu créé de la main des hommes? Non, c'est Dieu lui qui nous a créés. Nous ne pouvons pas créer un Dieu. Tout un livre redonne toutes ces imaginations de la divinité. Comment est-ce que les à Prague, à Bucarest, à Rome et partout, tout un livre C'est un Dieu qui se sont fait eux-mêmes. Ces choses-là, ces images-là, n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des imaginations humaines. Des, quatre yeux, trois nez, trois bouches. On doit jeter ça par terre. De la même manière, jeter ça, mettre à la poubelle. Cela n'a rien à voir à faire avec Dieu. Ce sont des hommes qui ont formé leur Dieu. Et c'est pour cette raison que la vraie prédication de la vérité est importante. Elle nous dit que Dieu est un seul Dieu. Il n'est jamais constitué de plusieurs personnes. Déjà dans l'Ancien Testament, ce seul Dieu, la unique, s'est manifesté. Le seul Elohim invisible est devenu visible déjà dans l'Ancien Testament en tant que Yahvé et marchait dans le jardin d'Éden. Alors que Dieu le Seigneur marchait dans le jardin d'Éden, il n'avait pas quatre nez ou trois bouches ou bien je ne sais pas combien de têtes. Il n'avait qu'un seul nez et qu'une seule bouche, tel que aujourd'hui nous sommes ici, créés à l'image de Dieu. Et alors que notre Seigneur est devenu chair, il était un homme, trouvé comme un homme, dépouillé. Chacune de ces imaginations est un blasphème à haut niveau. C'est peut-être raison que la vraie prédication est importante. Vous, mon peuple, écoutez mes paroles. La séparation et de revenir à l'original est important. Et cela doit réussir au Seigneur. De faire sortir son peuple de partout. Je voudrais aussi entendre votre amen sur ce que je vais dire. Est-ce que cela a réussi à l'Esprit de Dieu de nous accorder la pleine révélation sur la divinité, sur la connaissance de Dieu sur la face de Christ? Est-ce que nous avons part à ce que Jean, sur l'île de Patmos, au commencement a écrit Révélation de Jésus-Christ. Tous, vous connaissez la parole. On n'a pas besoin de le répéter. Mais pour le démontrer ici, ce que ce mot révélation signifie, si quelque chose était auparavant couvert, donc voilé, l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire dévoiler, ouvrir le voile, ôter le voile, donc révéler, et par cela, on révèle ce qui était voilé. Ça, ce sont les premiers versets d'Apocalypse. En anglais, c'est la révélation de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ, en allemand aussi. Donc, l'Apocalypse, le dévoilement de Jésus-Christ. Ici, vous pouvez le voir. Je vous l'ai dit, alors que j'étais moi-même sur l'île de Patmos et que j'allais d'ici et là et avec les larmes aux yeux et que j'avais lu toute l'Apocalypse, chapitre après chapitre, et que j'avais levé ma voix à Dieu. J'avais dit, bien-aimé Seigneur, il n'y a plus de prophète ici sur terre, j'en ai plus ici. Mais toi, tu es ici, toi tu as parlé avec Jean sur cette île, toi qui t'es révélé à lui, tu es ici, tu es présent. Et je vous dis, j'ai continué à lire l'Apocalypse et chaque jour était un jour particulier, un jour béni, d'être introduit dans tout le dessein du salut de notre Dieu, dans tous les détails. Et à qui est-ce que Dieu a pu utiliser pour le faire? Cela a eu lieu par le ministère de Frère Branham. Mais maintenant, adressé à nous tous, avons-nous reçu la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, personnellement? L'avons-nous accepté? Je vous dis, je vais vous dire encore quelque chose. Paul écrit aux Corinthiens que le voile est encore sur le peuple d'Israël et que c'est seulement quand ce voile sera ôter qu'ils pourront voir Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Rédempteur. Seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur, le voile est ôté. Et c'est ainsi que nous voyons par la grâce de Dieu tout le dessein du salut de notre Dieu. Si cela vous a été révélé par sa grâce, si ce dont nous avons parlé durant toutes ces années vous a été révélé, et aussi toutes les différentes prédications de frère Branham qui en rendent témoignage, si par le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, par l'Esprit de Dieu, vous avez reçu la compréhension totale par la vérité de la part du Seigneur, dites Amen. Pas enseigné par des hommes ou par un homme, mais par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Et ici dans Tite, le chapitre 2, au verset 14, nous lisons de notre bien-aimé Seigneur qui s'est livré lui-même pour nous, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Un peuple purifié par lui, un peuple saint, un peuple qui lui appartienne. Nous sommes le troupeau racheté par le sang. Nous appartenons à Dieu, fils et filles de Dieu, nés de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu et par l'engendrement du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit qui s'est livré lui-même, qui s'est donné lui-même pour nous. Lui-même, par un autre, il n'a pas envoyé un autre. Il s'est donné lui-même pour nous, pour nous racheter et nous accorder la position de fils et de fille. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, Paul a tiré la comparaison avec autrefois et avec le commencement de l'Église et du Nouveau Testament. En comparaison, ici vous pouvez tous le lire, 1 Corinthiens, chapitre 10, les quatre premiers versets témoignent ce que Dieu a fait autrefois de son côté, comment est-ce qu'il est descendu dans la nuée. Il a conduit son peuple par la mer, il les a nourris d'un aliment spirituel, donc la manne. Il a laissé couler l'eau, jaillir l'eau du rocher que Moïse avait frappé. Ensuite, il est écrit au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ici, nous avons une parole très importante. Mais la plupart, il est écrit ici, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils ont été sortis. Ils sont sortis d'Égypte, conduits par la colonne de feu, mangés d'un aliment spirituel, bu l'eau du rocher. Mais comme hier, nous l'avons aussi considéré, l'esprit de l'idolâtrie était en eux, dans leur cœur. Et même Salomon, l'homme dont la prière avait été exaucé par Dieu, plein de grâce, la plus longue prière dans l'Ancien Testament, et la gloire de Dieu s'est déversée, et la consécration du peuple, du temple a eu lieu, l'inauguration du temple a eu lieu, et cet homme est tombé dans l'esprit de l'idolâtrie. Regardez toutes les femmes qu'il a prises de tous les peuples, et pas seulement cela. Mais pour leur Dieu, de toutes les différentes femmes là, il a fait en sorte qu'elles aient des idoles et des autres, qu'elles aient le droit d'adorer leur Dieu. Et il a laissé aussi construire un autel pour chacune. Je n'ai pas le droit de tirer une comparaison, mais est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui avec toutes les églises? Tous, hein, église, c'est une femme dans les Saintes Écritures. Jusqu'à encore dans Apocalypse chapitre 12 et aussi dans Apocalypse chapitre 17, l'église est comparée à une femme. Israël était d'abord la vierge et ensuite elle fut la femme, et l'église est la femme qui reçoit la semence incorruptible de la parole pour que tous ceux qui appartiennent, qui doivent atteindre la première résurrection, naissent, donc sortent de l'église par cette naissance qui est exprimée dans, qui est décrite dans Apocalypse 12. Ensuite, le fils mâle sortira, naîtra, et ensuite sera enlevé. Tout est déjà contenu et écrit dans les Saintes Écritures, aussi selon l'enseignement. Tout est déjà enseigné et montré dans les Saintes Écritures. Je le dis aussi avec amour, mais malgré tout, avec tout le sérieux. Toutes les églises ont leurs propres règles. Tous croient ce qu'ils ont eux-mêmes décidé de croire, et personne n'a le droit de leur dire autre chose. Tous ont leurs propres hôtels, tous ont leurs réunions, et tous vont marcher dans leur propre chemin. Bien-aimés frères et sœurs, si dans ce temps nous écoutons la vraie parole de Dieu et que nous suivons l'appel à sortir et nous répondons à l'appel à sortir et revenons au Seigneur, nous n'avons plus le droit de prendre avec nous ce que nous avions cru auparavant et pratiqué auparavant. Nous n'avons plus le droit. Si Dieu vous appelle à sortir et que vous répondiez à cet appel, alors c'est un nouveau commencement, plus de compromis, mais tout un nouveau axe de temps commence dans votre vie. Et ce commencement, c'est Dieu lui-même qui, par sa grâce, l'a fait avec nous tous. Nous avons la grâce, toujours de nouveau, de remercier Dieu le Seigneur de ce que dans ce temps, nous avons la grâce d'entendre, nous avons eu la grâce d'entendre la voix du Seigneur. J'aimerais lire encore le verset 5. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 5, il s'agissait de ce que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Qu'est-ce que nous lisons de notre Seigneur? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir, en qui j'ai trouvé. Deux fois. Une fois, Matthieu 3, verset 17. Et une fois, Matthieu 17, sur la montagne de transfiguration. Et lors de la deuxième fois, il est dit ces paroles. Écoutez-le. Et nous sommes aussi ici aujourd'hui pour l'écouter. Au verset 6, il est écrit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ensuite, nous continuons. Nous allons de nouveau dans l'Ancien Testament, ici, à partir du verset 7, et nous voyons le chemin par lequel Dieu a conduit Israël. Ensuite, au verset 10, Au verset 8, nous ne livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombavent Parlons verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Non, nous ne nous levons pas jusqu'à que la parole de Dieu ait produit vraiment l'effet pour lequel elle a été envoyée à nous. Et nous sommes avec toutes nos pensées. Là, sous la prédication, nous ne sommes pas seulement ici assis avec des pensées dehors, occupés à autre chose, mais nous sommes ici avec nos cœurs, avec nos pensées, ici sous le coup de la parole. Nous sommes ici entièrement dans la présence de Dieu. Avec un souhait. Le verset 7 donc. Que le bon plaisir de Dieu soit sur nous tous. Car Enoch avait reçu le témoignage avant son enlèvement qu'il avait le bon plaisir de Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, nous devons recevoir le témoignage venant de Dieu lui-même, que nous lui sommes agréables, nous lui sommes agréables, et que nous marchons dans ses voies, dans sa parole, dans son amour. C'est pour cette raison, toujours de nouveau, l'avertissement. Ne devenez point idolâtres. Le verset 7. Comme frère Branham, dans le texte de hier, encore rapidement, Apocalypse 2, les deux versets, il les a mentionnés. Et je me pose vraiment la question, comment est-ce que c'était possible que des hommes avec une compréhension normale aient pu se rebeller et rejeter cette parole et s'attacher à l'enseignement de Balaam et pour manger des viandes consacrées aux idoles, alors que dans Actes des Apôtres, chapitre 15, il y a eu cinq choses qui ont été écrites devant les choses devant lesquels les croyants devaient s'abstenir. Aussi, il est parlé, entre autres choses, de viande sacrifiée aux idoles. Cela a plu au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous placer d'autres fardeaux que ces quatre choses. Actes des Apôtres, chapitre 15. Et ensuite, il y avait des gens qui, malgré tout, se sont élevés au-dessus de toutes ces choses et ont dit, ah, nous, nous pouvons le faire malgré tout. Ils se sont détachés de Jérusalem, ils ne sont plus allés à Jérusalem pour là-bas écouter les décisions de Dieu et croire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Non, ils sont restés attachés à la doctrine de Balaam, à la doctrine de Balaam. Que Dieu doit leur pardonner. Dieu pardonne ceux qui cherchent en lui leur refuge. Dieu pardonne ceux qui croient à sa parole, pas ceux qui sont rebelles et qui font ce qu'ils veulent avec sa parole. Ils ne sont même pas d'accord de ce que la parole leur dit, mais ils ont des propres doctrines et enseignements et des façons de voir, et Dieu devrait leur pardonner. Ici, il y a un point que je devrais encore dire. Toutes ces fausses doctrines vont ensuite devenir comme une idole. Donc, alors, c'est quelque chose pour ces soi-disant personnes-là, c'est le sujet principal. Oh, la soi-disant révélation que Dieu, comme ils disent, par exemple, sur les sept tonnerres, leur a donné. Sur de tels sept tonnerres-là, personne n'a besoin de recevoir une révélation. Sur les sept tonnerres, personne n'a besoin de recevoir une révélation. Car quand le temps viendra pour ça et que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descendra, selon Apocalypse 10, alors ce ne sont pas seulement sept tonnerres qui retentiront tels qu'ils ont retenti le 28 février 1962, mais ce sera sept voix qui retentiront. Sept voix. Pas seulement des tonnerres, mais sept voix. Et laissons les choses telles qu'elles sont écrites dans Apocalypse 10, mais quand on entend tous ces gens-là qui, soi-disant, parlent de révélation, et tous parlent de révélation, d'une révélation sur les sept tonnerres. Non, et encore une fois, non. L'Esprit de Dieu, lui, révèle la parole. L'Esprit de Dieu, lui, il n'a rien à voir à faire avec une fantaisie religieuse. Des interprétations, cela ne vient pas de Dieu. Dieu, lui, il nous accorde la signification de sa parole originale. Et l'Esprit de Dieu, jusqu'à maintenant, d'une manière merveilleuse, nous a conduits dans la parole de la vérité. Ce ne sont pas nos mérites et notre dignité. Non, c'est parce que c'est le temps dans lequel nous vivons qui est arrivé pour Dieu de révéler ces choses. C'est peut-être la raison que nous avons la grâce d'écouter toutes ces choses, de croire toutes ces choses et aussi d'expérimenter toutes ces choses. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 7, « Ne devenez point idolâtres. » Oui, la doctrine de Balaam avait trouvé son effet parmi le peuple. Combien enseigne dans notre temps des choses qui ont été acceptées par beaucoup. Et la chose la plus grave, c'est qu'ils ne sont pas à l'extérieur. Ils sont dans le message. Toutes ces fausses doctrines, c'est ça le problème. Tel que Paul, tel que Luc ont écrit, Luc a écrit dans Actes chapitre 20, ils viendront de votre milieu, de parmi vous, pas à l'extérieur du message. C'est dans le message, à l'intérieur du message que ces fausses doctrines-là apparaissent, toutes ces fausses doctrines et ces interprétations. Il y en a un qui construit un hôtel là, un autre qui construit un autre hôtel là-bas, etc. Et chacun en leur hôtel et tous conduit le peuple dans l'égarement, on doit le dire. Disons les choses encore, tel que c'est écrit ici, et je vais vous le lire, de Actes des Apôtres, le chapitre 15. Et posons la question, comment est-ce que cela a pu être possible? Que déjà, dans l'église primitive, donc la doctrine de Balaam avait pris du pied. Et que les hommes avaient oublié la parole. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Ouais. Donc à Dieu. Donc, ce que Dieu à Jérusalem, en présence de toute l'Église, ce qu'il a paru bon à Dieu, en présence de tous les anciens, en présence des apôtres, c'est ce qu'il a paru bon à Dieu comme décision sainte d'établir cela pour l'Église. Ils ont mis cela de côté. Et cela, il y en a qui ont commencé, n'est-ce pas, à introduire la doctrine de Balaam dans les différents âges. Ici, dans Apocalypse 2, et les gens ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Et Jézabel aussi, il est écrit ici, il y a deux choses. Il est parlé aussi ici de Jézabel parce qu'elle était prophétesse. Elle a pu commettre plus de dégâts dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. En allemand ici, docteur, donc enseigner. Dieu a seulement établi des hommes. Hein? Il n'a jamais parlé de femmes qui seraient prophétesses, qui seraient ici enseignantes. Ici, il est écrit qu'elles enseignent. Elles enseignent. Elle était prophétesse et elle enseignait. Elle enseignait même ses serviteurs et séduire mes serviteurs. Une femme pour qu'il se livre à la débauche. Et qu'il mange des viandes. Exactement les quatre choses qui ont paru bon au Saint-Esprit et aux apôtres à Jérusalem, au centre de Dieu, dans l'Église du Nouveau Testament. Tout ce qui a paru bon au Saint-Esprit, tout ce qui a été établi par le Saint-Esprit, décidé par lui et par les apôtres. Il est parlé de débauche aussi, de la débauche. Hein? Ils ont enseigner que cela, on peut quand même le mettre, le faire, on est dans la grâce, etc. Non, bien mes frères et sœurs, nous ne voulons pas encore entrer dans les détails. Mais Dieu ne permettra pas que, encore une fois, une séduction ait lieu et un égarement. Dieu ne permettra pas qu'un esprit de Jézabel, un esprit de Balaam encore apparaisse. Et tous ceux qui se sont mis à part et qui disent, nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem, nous n'avons pas besoin aussi d'aller à Krefeld, nous faisons notre propre chose. J'aimerais, au nom du Seigneur, dans tout l'amour, vous dire, vous avez été égarés et vous égarez encore d'autres. Vous êtes détournés de la parole de Dieu et vous ne vous êtes pas soumis à la parole et vous avez retenu d'autres pour qu'ils puissent se soumettre à la parole. Et c'est ainsi que pour les empêcher de se soumettre à la volonté de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, si nous savions seulement ce que Dieu faisait du temps de Balaam et aussi ici du temps du commencement de l'Église du Nouveau Testament, moi, je veux savoir, moi, je dois savoir où est-ce que nous sommes arrivés maintenant. Quelle position nous avons mais maintenant, à quel point est-ce que le Seigneur en nous a pu déjà faire son œuvre? Où est-ce que nous nous trouvons spirituellement? Et justement, encore une chose, encore le point culminant, de retenir les autres à aller à Jérusalem, apporter un propre endroit de sacrifice et d'établir des personnes qui ne venaient même pas de la tribu de Lévi, qui a seulement la tribu de Lévi, qui n'appartenait pas donc à la tribu des sacrificateurs. Ils ont été, malgré tout, ils ont été établis comme sacrificateurs. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Si je le dis aujourd'hui que tous les frères qui se sont détachés et qui font ce qu'ils veulent, alors avec cela, devant la face de Dieu, j'ai dit la vérité et je vous demande à tous et aussi ce que nous avons comparé ici dans Actes des Apôtres chapitre 15 avec Apocalypse 2 verset 14 et le verset 20. Du temps des apôtres, déjà, des hommes ont osé introduire des fausses doctrines. Déjà, du temps des apôtres, en plus forte raison aujourd'hui. Et à l'époque, déjà, ils ont empêché, il y a eu déjà des hommes qui ont empêché le peuple de Dieu de croire ce que les apôtres enseignaient. Et maintenant, à la fin, Dieu appelle son peuple à sortir. Il dit, venez, repartons à Jérusalem. Repartons à la première prédication à Jérusalem. Repartons au premier baptême. Repartons à tout ce qui a été pratiqué et enseigné au commencement. Revenez au commencement de l'Église et ne vous attachez pas à Gilgal ou bien à Bethel ou bien à certains lieux dans la vallée ou bien les montagnes d'Éphraïm ou bien où que ce soit. Ou bien alors où est quelque que ce soit. Restez pas attachés à toutes ces choses, à tout ce que les gens font, qui se sont séparés, que ce soit à haute voix ou bien à voix basse, qui disent, vous n'avez plus besoin d'aller là-bas. Si Dieu a donné un ordre d'aller de ville en ville pour prêcher la parole, la dernière parole, pour que s'accomplisse que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Alors moi, je me pose la question aujourd'hui et je ne pose pas à cause de moi. Est-ce que tous ces frères-là ont fait? Est-ce que après ces dernières 46 années, est-ce qu'ils sont allés de continent en continent? Ou bien est-ce que dans leur propre région, ils ont pris soin pour du désordre et ils ont établi leur propre direction, ils ont établi leurs propres églises, etc. Et on écoute un pasteur, ils se font appeler pasteur, hein, toujours de nouveau, hein, en allemand, hein, pasteur. Vous prenez ce groupe, hein, celui-ci et ce frère est un pasteur. Vous ne savez pas que et ici dans cette ville, dans cette église, le frère là est un ancien, ou bien c'est un pasteur. Dans toutes ces 40 années, le frère Rousse, qui ici dans l'église locale, il n'a pas permis une unique fois qu'on l'appelle pasteur. Jamais. Jamais. Ou que ce soit ancien ou bien pasteur. Rien. Il est resté, malgré tout qu'il était pasteur. Et il a pu exhorter et conduire l'église. Mais ce titre-là, tel que c'est écrit, n'appelez personne père. C'est écrit dans Matthieu 23. Vous appellerez personne docteur ou bien maître. Personne. Vous, un seul est votre maître. Et c'est le Seigneur. Nous sommes tous des frères. Nous ne sommes pas appelés d'après des titres. Et nous signons pas avec un titre ou bien quoi que ce soit. Il s'agit du nom. Et le nom de notre Seigneur, comme dans le baptême aussi. Et son nom s'appelle Léonard Rousse. Le frère Schmitt n'a jamais été appelé pasteur ou bien quoi que ce soit. Pourquoi? Nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne pouvons pas nous faire comme des dénominations et nous présenter comme des églises. Je le répète encore une fois. Et ça, c'est le Seigneur qui me l'a donné ce matin. Je n'ai pas pensé à ça tout à l'heure. Acte des Apôtres, chapitre 15, a été mis de côté. Et il est écrit là dans Acte des Apôtres, chapitre 15. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est ainsi que déjà dans l'Église primitive, ces hommes-là se sont détachés. Il y en a un qui a introduit la doctrine de Balaam et l'autre de Jézabel. Et c'est ainsi que tous se sont détachés de l'enseignement des apôtres. Je voudrais encore répéter, encore une fois, Dieu, pendant ce week-end, nous a donné une leçon qui fait peut-être mal, mais nous voulons, dans l'obéissance de la foi, la prendre au sérieux, ce que le Seigneur a à nous dire. Pas faire ceci et cela, aller là et là, séparer de ce que Dieu depuis le commencement a fait. Et j'aimerais encore dire la chose suivante. Nos frères préparent maintenant dans les pays de l'Afrique du Centre des réunions dans quatre grands stades dans grandes villes. Le premier stade contient 22 000 personnes et il sera plein. Les hommes viennent pour écouter la parole de Dieu et les frères font ce qu'ils peuvent pour préparer les réunions. Qui a dans 54 pays porté la parole de l'heure? Qui a de manière claire prêché le message de l'heure? Est-ce que ce sont tous ces frères-là qui l'ont fait? Hein? Qui vous disent de ne pas venir à Krefeld, qui vous disent de ne pas venir à Krefeld, qui ont leur propre réunion dans leur ville, n'est-ce pas, et qui ont préparé leur propre réunion, qui font ce qu'ils veulent. Leur devoir principal, c'est d'empêcher les gens de venir à Krefeld. Hein? N'est-ce pas? Ça, c'est leur devoir. Là, ici à Krefeld, où la vraie parole est prêchée. Hein? Et là, on remarque tout de suite où est-ce que l'esprit de Balaam et de Jézabel sont, où est-ce que d'autres esprits existent, sous un manteau très pieux d'humilité, comme un agneau. On peut même appeler un frère qui... qui écoutent sûrement cette prédication. Oh, mes fils aussi parlent l'anglais et nous sommes tous informés de tout. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être informé de tout. Est-ce que quelqu'un connaît l'anglais ou bien le français ou bien l'allemand? Aujourd'hui, il s'agit, est-ce que nous parlons la langue de Dieu? Est-ce que nous avons compris Dieu? Est-ce que nous avons prêté l'oreille au dernier appel? Est-ce que nous nous sommes séparés de tout ce qui ne vient pas de Dieu pour nous consacrer entièrement au Seigneur? Donc, cela a paru bon au Saint-Esprit. Cela a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est ainsi que les apôtres l'ont transmis. Et nous restons dans l'enseignement des apôtres. Nous demeurons, Actes des apôtres 2, verset 42, demeurons dans la communion, et etc., dans la prière, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vie. Une parole adressée encore à tous ceux qui se laissent baptiser. Je sais que cela se fait entendre très dur, mais alors que pour la première fois j'avais entendu Frère Branham, tous ceux qui baptisent dans la forme, dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit, tous ceux qui sont baptisés dans ces titres-là sont en fait baptisés dans l'Église romaine catholique. Car l'Église d'État Rome, c'était elle qui a inventé ce baptême trinitaire qui, pas une unique fois, a trouvé emploi dans les Saintes Écritures, a été pratiqué dans les Saintes Écritures, que ce soit lors du baptême ou bien alors dans la prière. L'unique fois, c'est dans Matthieu 28, et cela est mal compris de tous. Il est écrit, allez dans le monde entier, enseignez tous les peuples à garder ce que je vous ai prescrit et baptisez-les au singulier, s'il vous plaît, au singulier, pas au pluriel, mais au singulier, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, en tant que Père au ciel et dans son Fils, seul engendré par lui, ici sur terre et dans l'Église, le même Dieu s'est manifesté par le Saint-Esprit. Et c'est dans ce nom-là, dans le nom de l'Alliance du Nouveau Testament, Jésus-Christ de l'Ancien Testament, conduit, venu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Yahvé Sauveur, Yahshua, Yahvé Sauveur. Dans notre langue, nous avons le nom Jésus, et c'est ainsi que réellement, tous, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Samarite, que ce soit en Judée, que ce soit à Éphèse, partout, que ce soit Pierre, que ce soit Philippe, que ce soit Paul, tous ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est peut-être raison que Paul, dans Romains 16, pouvait dire, nous tous, dans Romains 6, pardon, 6, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort, Romains 6, les commencements du verset, du chapitre. Pourquoi est-ce que ces hommes-là ne cherchent pas, ne lisent pas les versets bibliques? Ils s'attachent seulement à un seul verset, Matthieu 28, hein, et ils ne continuent pas à lire tous les autres versets et chapitres qui traite aussi le baptême, et que Paul et Philippe, ils ne voient pas dans Actes des apôtres comment est-ce que les différents apôtres ont baptisé. Et chaque vérité doit être au moins reposée sur deux ou trois témoins. Ça, c'est la prescription divine aussi. Quand il y a un témoin, il faut que ce soit au moins deux ou trois témoins qui, indépendamment de l'un de l'autre, témoignent la même chose. Sinon, on n'a pas le droit d'accepter une accusation contre qui que ce soit. Bien aimés frères et sœurs, aussi en ce qui concerne le baptême qui aura lieu ici, il a lieu aussi donc selon le modèle apostolique original. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de l'Alliance du Nouveau Testament, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Emmanuel, Dieu avec nous. S'il vous plaît, ne vous brisez pas la tête. Ne cherchez pas sur le sujet de la divinité. Mais que cela vous soit révélé, simplement révélé. Je vous le dis, nous avons foulé le sol de la révélation et nous l'avons fait dans toutes les années passées et l'avons expérimenté comment est-ce que le Seigneur nous a conduit de clarté en clarté dans sa parole et jamais nous sommes sortis à l'extérieur du cadre de la parole. Le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pourrez demander ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Disons les choses encore une fois, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons. Pas seulement comme ça, terrestrement, ce qui se passe dans le monde entier, etc., les événements. Nous n'avons pas eu le temps de venir en parler ce week-end, mais nous nous sommes concentrés ce week-end à ce qui est important pour nous maintenant en tant qu'Église appelée, en tant qu'Église sortie. Demeurez dans la parole, demeurez dans la volonté de Dieu, soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans la foi et dans l'obéissance comme Abraham l'était. C'est ainsi que toute la semence d'Abraham sera aussi. Et laissez-moi vous dire cela par conviction. Lors du retour du Seigneur, l'époux trouvera une épouse préparée, sans tache, sans ride, irréprochable, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée du Saint-Esprit, pour le jour de la rédemption, de sa rédemption, de la rédemption de son corps, de notre corps. Il ne nous reste qu'une seule chose, c'est de tout notre cœur remercier le Seigneur pour le grand privilège que nous avons de vivre maintenant
et d'être
amené dans l'état actuel, dans le royaume de Dieu voulu par le Seigneur. C'est la grâce qu'il nous accorde. Soyez simplement bénis au nom du Seigneur. Amen. Nous nous levons. Chantons peut-être « Oh, c'est Jésus !»« Oh, c'est Jésus !» Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, et nous devons en être conscients, nous écoutons pas des paroles d'hommes, nous écoutons des paroles de Dieu, et dans la présence de Dieu, nous prenons nos décisions pour le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous donner encore des temps de réflexion, mais au moment où le Seigneur parle avec nous, nos cœurs brûlent. Et il nous ouvre l'intelligence pour les Écritures. Nous ne méprisons aucune parole, car chaque parole nous touche le cœur. Nous nous examinons en face de chaque parole, nous nous soumettons devant chaque parole et nous n'avons qu'un seul désir, c'est de suivre fidèlement le Seigneur dans la foi et dans l'obéissance, de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie, que par la grâce de Dieu, nous avons la grâce d'y marcher. D'abord, je voudrais demander, comme première chose, êtes-vous tous d'accord que nous devons revenir à la parole, à l'enseignement, à tout, au baptême d'eau, à tout ce qui existe, de tout ce qui était sorti au commencement, avait commencé à Jérusalem, dites Amen. Et que tout le monde puisse l'entendre, le monde entier puisse l'entendre. Votre Amen. Si nous voulons recevoir la révélation de Dieu sur toutes ces choses, dites Amen. Dieu le fera. Dieu le fera. Nous ne consultons plus la chair et le sang. Nous ne demanderons plus, frère, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Comment est-ce que tu vois ça? Non. Nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire par ta sainte parole? Maintenant, je voudrais demander combien ont une requête naturelle, personnelle, une requête personnelle. Ça n'a pas l'importance de quelle sorte et dans quel domaine. Vous avez un problème, une requête que vous voulez apporter au Seigneur. Levez les mains, personne ne regarde à droite et à gauche. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, acceptez-le. Le temps est arrivé où Dieu exauce les prières. À l'instant même, il répond et nous accorde ce dont nous avons besoin. Si vous croyez, vous pouvez croire maintenant, recevez selon vos besoins. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le prix est payé. La rédemption a eu lieu. L'œuvre est accomplie. Vos fautes ont été pardonnées. Vos péchés ont été couverts par le sang de l'agneau. Votre corps a été guéri par les meurtrissures, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, notre Seigneur. Acceptez-le dans la foi et vous pourrez le prendre avec vous à la maison. Et vous pourrez repartir avec ça à la maison. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Combien sont prêts à marcher tout le chemin, à suivre tout le chemin du Seigneur avec le Seigneur jusqu'à la fin, que nous passons de la foi à la vue. Dites Amen. 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 Maintenant, nous demandons à tous ceux qui veulent se laisser baptiser qu'ils puissent venir devant. Pendant ce temps, nous allons ensemble prier et remettre toutes choses au Seigneur et croire encore. S'il vous plaît, et continuez à croire. S'il vous plaît, n'oubliez pas cette pensée principale de ce week-end. Un homme de Dieu avait reçu, avait agi et parlé à la parole de l'Éternel. Et le Seigneur avait confirmé sa prédication. Et ensuite, mes bien-aimés, Nous avons entendu la parole et nous avons pris notre décision pour le Seigneur. Jamais plus repartir en arrière. Jamais plus repartir en arrière. Retourner dans quoi que ce soit. Mais aller seulement de l'avant dans la foi avec le Seigneur, avec le Sauveur. Ça, c'est notre décision dans ce week-end. Et tel que nous l'avons entendu, nous ne nous sommes pas détachés de ce qui a été enseigné et prêché à Jérusalem. Nous ne sommes pas séparés de ces choses et marchés dans des propres voies. Nous avons conservé notre marche dans le chemin du Seigneur et dans l'obéissance de la foi. Nous avons la grâce d'aller de l'avant, jamais revenir. Et comme la dernière pensée de Actes des Apôtres, chapitre 15, l'exprime, c'était cela apparu bon au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit l'a révélé et les apôtres l'ont transmis. À nous aussi, le Saint-Esprit l'a révélé et nous le transmettons jusqu'à que tous, vraiment que tous, viennent à la foi, à la vraie foi, unis ensemble, et que le Seigneur soit avec nous tous et accomplisse son œuvre sur terre. Une parole adressée à ceux qui veulent se laisser baptiser. Qui parle l'allemand? Toi aussi, tu parles l'allemand? Oui, vous parlez l'allemand. Allemand, oui. Et les trois. Bien-aimés, regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici devant. Vous avez consacré votre vie au Seigneur. Vous avez pris la décision de le suivre. Vous croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur la croix à Golgotha, pour vous, entièrement, est mort. C'est pour vous qu'il est mort, personnellement. Il a porté vos fautes et vos péchés sur vous. Et qu'il a versé son sang pour votre rédemption et votre salut. Et aujourd'hui, vous pouvez faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu et dans le baptême, apporter la preuve que de tout votre cœur vous croyez. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Marc 16, verset 16, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Encore cette parole du Seigneur est valable. Acceptez-la dans la foi et que la paix de Dieu, qui est plus élevée que toute pensée humaine, qu'elle conserve vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que cela ait lieu, qu'après le baptême d'eau, vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Mais nous allons aussi encore devoir parler de ça. Nous voulons ensemble prier et remettre tout au Seigneur. Nous demandons au frère Schmitt de prier. Dieu éternel, en Christ Jésus notre Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous reconnaissons et nous voyons que tu es encore sur le trône de la grâce et que tu accordes ta grâce à ceux qui regardent à toi. Tu accordes ta grâce à ceux qui t'invoquent toi, notre bien-aimé Seigneur. Tu touches encore le cœur. Tu sanctifies, tu purifies, ainsi nous te demandons. Accorde-nous à tous ta grâce. Nous qui avons rendu le témoignage de marcher avec une bonne conscience devant toi et devant les hommes. Seigneur, bénis aussi les jeunes cœurs qui sont décidés à rendre ce témoignage, Seigneur Jésus. Sois avec eux et accompagne-les dans leur chemin. Nous te demandons la bénédiction. Amen.
Et
avant d'aller au baptême d'eau, nous demandons aux sœurs de nous chanter un cantique merveilleux. Et ensuite, nous allons dire courtement, Dieu voulant, le voyage aura lieu maintenant en août. Je voudrais aussi annoncer ici que mardi en Suisse, à Berne, il y aura l'ensevelissement de notre bien-aimé frère Fritz Schumacher. Et si quelqu'un peut y aller, tous sont invités. Lui aussi, je l'ai connu 34 ans, durant toujours fidèle, il est venu à Zurich. Avec 4, à 86 ans, le Seigneur l'a repris dans la gloire. À lui soit l'honneur pour cela. Restez encore assis. Oui.
Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach,
si vos péchés sont comme le chrome, ils deviendront blancs comme la neige. Si sa bouche comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vos péchés sont comme le chrome, si vos péchés sont comme le chrome, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige.
Hört die Stimme, die laget, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die laget, o bekehret euch zu Gott. Denn ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. O bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht und gedenkt der Sünde nicht.
Amen.
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 Weißer gewaschen.
Lavé, blanc, plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. C'est ainsi que c'est écrit. Et c'est ainsi que c'est accompli. Bien-aimés frères et sœurs, encore rapidement, pensez à nous. Le frère Tati est ici. Nous allons ensemble entreprendre ce voyage en Afrique du Centre, au Gabon, et ensuite au Congo, à la République du Congo,
et
encore rapidement en Zambie, et encore rapidement, Dieu voulant, à Johannesburg, tel que le Seigneur le conduit, je viens de le dire, partout il y a des stades qui ont été loués, que des stades, et pensez à nous que la parole du Seigneur puisse atteindre les derniers. Maintenant la question, avez-vous été béni ce week-end? Est-ce que la parole nous a touchés? Avons-nous pris la bonne décision avec le Seigneur? Pensez à cela. Avec la décision que nous prenons ici, nous allons rencontrer le Seigneur. Que ce soit la bonne décision. Nous remettons des salutations à Paris, à Bruxelles, dans toutes les villes de la France et de la Belgique, la Suisse, l'Autriche, la Roumanie, l'Italie, partout dans tous les peuples et les nations, les langues, particulièrement des salutations particulières aussi en Ouzbékistan, particulièrement des salutations en Tchèque, en Pologne, la Slovaquie, nos amis de la Slovaquie, que Dieu bénisse en Italie et qu'il laisse son chemin partout. Le temps est arrivé et aussi les frères dans le ministère doivent s'unir et se réconcilier et être baptisés par un seul esprit dans le même corps et que tous les membres et que vraiment l'harmonie, l'union divine et l'harmonie divine puisse avoir lieu. Le Seigneur l'a promis, il le fera. Mais j'ai malgré tout l'impression que nous devons encore une fois remercier. Simplement, ensemble, remercier comme les choses sont dans vos cœurs. Bien-aimé Seigneur, Père Céleste, Dieu éternel, nous te remercions de tout notre cœur. Pour ta parole, pour la parole qui sort de Jérusalem, qui est sortie de Jérusalem, pour l'enseignement. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur. Bénis tous. Laisse luire ta face sur nous. Et accorde-nous ta grâce, ta paix et ta bénédiction. Accorde ta grâce. Aussi les requêtes et les prières. Aussi en Tchèque, nous t'apportons la requête. Bénis au-dessus de toute mesure et compréhension et pensée. Nous te remercions, je te remercie de ce que tu as offert l'intelligence, notre intelligence pour les Écritures. Loué et exalté soit ton merveilleux nom, Saint. Et que tout le peuple dise Alléluia. Et que tout le peuple dise Amen. Et que le monde entier puisse entendre. Soyez bénis. Dans le nom du Seigneur. Ça, c'est notre jour. Le jour que le Seigneur nous a accordé. Nous pouvons être heureux et joyeux et lui apporter l'honneur. Encore une fois, ceci est le jour. Chantons et nous demandons au frère Eric Schmidt de venir. Nous allons lui demander aujourd'hui de baptiser. Où est le frère Eric Schmidt? Viens s'il te plaît devant. Chantons ceci est le jour. Lass er das Wort und den Geist hinein.
Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade.
Père céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité pour ce jour que tu as vraiment fait pour nous. Je te remercie de tout mon cœur de ce que nous qui sommes déjà été baptisés, nous avons reconnu le temps de notre visitation. Nous te remercions de tout notre cœur de ce que maintenant les âmes qui sont devant toi, tu leur as accordé le pas de l'obéissance. Pour eux, c'est le jour du salut. Que tu les as agréés et que tu leur... Ils ont accepté ta parole, le salut que tu as envoyé. Je te remercie de tout mon cœur. De ce que nous pouvons faire les choses selon le modèle de Jérusalem. En toutes choses, je te remercie de tout mon cœur. De ce que ce n'est pas la Jérusalem terrestre, mais ta parole qui est sortie de Jérusalem et nous a atteint. Je te remercie de tout mon cœur de ce que nous avons la grâce d'être obéissants en toutes choses, en tout ce que tu exiges de nous. Et ton joug est doux et ton fardeau est léger. Nous avons la grâce avec joie de marcher ce chemin et d'aller dans l'obéissance de la foi. Je te remercie de tout mon cœur pour cela. Et que nous puissions, quand le baptême sera fait, que nous puissions pas seulement sortir de l'eau et être mouillés par l'eau, mais que ton Saint-Esprit puisse remplir les cœurs et remplir. Et pas seulement ce pas de l'obéissance maintenant et aujourd'hui, mais que tous qui sommes ici rassemblés, nous soyons baptisés d'esprit et de feu. Et partout où ton épouse s'est rassemblée et a accepté ta parole, que tu puisses remplir de ton Saint-Esprit tous et que tous nous puissions dire « Maranatha, viens bientôt Seigneur Jésus ». Je te dis merci de tout mon cœur et je te loue ton saint nom. Amen. Loué. Nous disons, il nous a bénis. Amen. Soyez remis à la grâce du Seigneur jusqu'à la prochaine fois. Ceux qui vont se laisser baptiser suivent maintenant notre frère et nous allons tous à l'eau. Saluez-vous tous et nous allons tous nous rassembler autour de l'eau. Tous. Que je sois avec vous. Amen.